Ouvrez vos Bibles en psaume 119. Ce matin, nous allons voir du verset 41 au verset 48. Nous allons écouter ceci comme étant la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rejurerai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Prions. Notre Père, nous prions que tu nous aides à aimer tes commandements, tout comme le psalmiste parle de son propre amour. Seigneur, rallume notre affection pour toi, afin que nous puissions nous intéresser et aimer ta parole, afin que nous soyons à l'image de Christ. Nous demandons, Seigneur, nous prions que tu nous donnes tes bénédictions et que tu fasses de grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de nous retrouver dans le passage proprement dit, je voudrais ressortir certaines choses d'abord pour que nous puissions savoir ce que nous devons comprendre. En réalité, ici, David parle de l'amour de Dieu envers, par rapport à sa relation avec le peuple de Dieu. Il dit que c'est à travers l'amour de Dieu que le salut vient. Et nous allons rapidement en Jean chapitre 3, verset 16. Vous allez voir qu'il y a des gens qui disent que Dieu est tellement méchant, mais Jésus est tellement amour plein d'amour, mais c'est tout le contraire de ce que nous pensons de Dieu. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc il ne faut pas dire que c'est Jésus qui est plein d'amour, mais que Dieu n'est pas plein d'amour. Mais l'amour de Dieu a été démontré par le sacrifice à travers lequel le salut est donné. Romains chapitre 5 verset 7 à 8, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà certaines choses importantes qu'il faut noter lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, comme c'est discuté dans ce passage. D'abord, il faut comprendre que l'amour n'est pas seulement des sentiments, ressentiments ou des sentiments. Cela implique les sentiments parce que nous sommes des créatures émotionnelles. Mais ce n'est pas simplement les sentiments, parce que l'amour va plus loin que le sentiment. Ensuite, l'amour de Dieu traite toujours de l'obéissance, implique toujours l'obéissance. L'amour de Dieu va plus que l'obéissance, mais ce n'est pas moins que l'obéissance. L'amour de Dieu, c'est la relation qui pousse à l'action. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, ce n'est pas que vous devez, ou bien vous pouvez, ou si vous voulez, ou bien si un jour, si vous aimez Dieu, il faut garder ses commandements. Et si vous aimez ses commandements, c'est ce que vous devez faire. Mais il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est toujours. Et troisièmement, l'amour de Dieu met Dieu au centre de toutes nos conversations, et cela nous amène à parler à ceux qui s'opposent à lui de l'amour de Dieu et du salut. Et dans la deuxième section de ce psaume que nous allons voir, le psalmiste dit que je veux parler de cela, je vais le dire même au roi, à ceux qui sont autour, je vais leur dire que c'est mon Dieu, voici son amour, et il aime vraiment. Et dans le passage hébreu, c'est un passage très important qu'il faut connaître. Quand vous voyez le passage en entier, toute la section, il y a des mots de connexion ou bien de transition comme Paul qui essaie de dire comment il peut il peut être connecté à Dieu. Donc l'apôtre met ensemble ces versets pour que nous puissions comprendre ce dont nous parlons. Et cela peut paraître comme si vous, votre amour ne vient pas à moi, alors je ne vais pas vous répondre. Il ne faut pas ôter mon habileté d'exaucer. Je vais garder. Et puis il dit, et alors je répondrai à ceux qui me diront, et vous voyez le mot et revient, et ne m'enlève pas, et je marcherai, et je délecterai. Vous voyez, donc pour que cela soit clair, c'est vraiment une chose importante. Donc quand nous considérons le passage ce matin, nous devons retrouver Dieu dans ce passage. Donc dans le point de notre étude biblique, ce n'est pas simplement de connaître davantage la Bible. Ça, c'est important de connaître beaucoup la Bible, mais ce qui est très important, et ce qui est très important pour nous en étudiant les Saintes Écritures, c'est de connaître davantage Dieu, de connaître Dieu, qui il est. Notre catéchisme parle de cela, qui nous rappelle que les principes de la Bible nous enseignent ce en quoi je dois croire, que Dieu, ce que Dieu demande de moi. Qu'est-ce que je crois de Dieu par rapport à moi, et c'est qu'est-ce qu'il demande de moi, et cela se trouve dans la Bible. Cela nous amène à voir le plus grand amour de Dieu, qui nous amène à considérer le passage où nous voyons les mots qui viennent dans pratiquement tous les versets. Nous mentionner que tous les versets dans ce long chapitre parlent, fait des déclarations de l'amour de Dieu. Et il y a 8 qui sont ressortis ici dans ce passage. Mais dans cette petite section que nous considérons aujourd'hui, tout parle des promesses, de la parole, des règles, des principes, des témoignages, des commandements, des lois, des statuts. Et donc cela est très important de prendre en compte cette répétition qu'il voulait, ou bien qu'il a eu à faire, afin que nous puissions savoir ce qu'il a préparé pour nous. Et quand nous sommes là, nous nous posons la question de savoir comment est-ce que nous pouvons trouver Dieu dans ces passages, quand nous voyons dans la déclaration de David, dans le premier verset de notre passage de cette section, verset 41, nous parlons de l'amour de Dieu pour nous et la provision de son salut. Et David est en train de prier ici. Il prie pour le salut. Il dit, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Il dit que ton amour, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Le salut selon ta promesse, ce n'est pas mon salut, mais c'est ton salut parce que je crois en tes promesses. Il n'y a rien de compliqué ici. Il dit, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. C'est ton salut. C'est quel salut? Quel salut? Le salut qui a été promis. Ici, il parle des promesses messianiques, les promesses que Dieu a faites à Israël. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. La déclaration, il a dit que si vous mettez votre foi, vous croyez en Dieu, vous serez son peuple. Et ce peuple a le salut dont il a parlé. Cela peut être intéressant de savoir, de voir ce qu'on appelle, ce que nous disons, quand nous parlons du salut, nous nous référons à quoi. Il y a plusieurs versions. Il n'y a pas d'autre Jésus, mais ce que je voulais dire, il y a plusieurs personnes qui imaginent, quand vous voyez le Jésus des Mormons, le Jésus des témoins de Jéhovah, les musulmans, les Jésus des musulmans, il est là, Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus dont nous parlons. Donc, et ils mettent de côté sa divinité, ils mettent à côté son salut qui vient de lui seulement. Et donc, il ne croit pas en Jésus comme nous croyons en lui. Il ne pense pas que c'est lui qui donne le salut. Et même lorsque nous faisons un puzzle et que les pièces ne correspondent pas, nous savons comment nous devons faire. Sinon, si tu ne réagis pas bien pour que tu puisses trouver la solution, tu ne vas jamais réussir à ce puzzle. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs religions, lorsqu'ils prennent une partie de ce que la Bible dit concernant Christ et ils veulent essayer de le faire correspondre à leur système, ça ne marche pas. C'est la même chose quand nous voyons ce que le psalmiste est en train de nous dire, comme nous le voyons crier et dire, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut. Nous voyons qu'il nous appelle à faire attention à la parole par laquelle Dieu sauve le méchant. Le mot salut, c'est le sens de rendre pur. C'est la meilleure façon de comprendre la doctrine du salut qui nous amène à pouvoir être proche de Dieu à cause du fait que Jésus prend ce qui était méchant, ce qui était mauvais, ce qui était injuste, il prend cela, il transforme et il y a le renouvellement. Il ne s'agit pas de sauter ça et là par rapport à la déclaration du salut de David, mais il dit, quand il parle du salut, c'est ce que la Bible déclare dans le Nouveau Testament, et la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et David, quand il parle, il y a beaucoup de piliers, il y a certains piliers qui ne peuvent jamais échouer. Il nous appelle à considérer le salut de Dieu. Le salut vient par la grâce et non par le mérite. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour amener Dieu à vous aimer? Non, vous n'étiez même pas désirable par Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui a choisi de vous aimer. Il a choisi de vous changer à l'image de Christ. Voilà un peu les choses qui sont attribuées à sa grâce. Ce n'est pas par mérite, c'est le salut dont nous sommes toujours rappelés, ou bien qui nous est toujours rappelé que nous attendons la miséricorde de Dieu. Cela amène à la vie éternelle, la grâce de Dieu et les promesses de Dieu, qu'il en soit ainsi selon ta parole. Ça voudra dire que le salut vienne selon ta parole. Il dit dans le verset 41, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Est-ce que nous aimons la miséricorde? Mais quand il parle de ton amour, ferme, il veut dire que c'est l'amour de Dieu est ferme, l'amour de Dieu est inamovible. Nous nous retrouvons en pensant, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour qui vient de Dieu. Notre catéchisme nous rappelle également que la nature ou les attributs de Dieu, Dieu est infini, éternel et inchangeable. Son amour pour moi ne change pas. Son amour pour moi est éternel. Son amour pour moi est infini. Et il est prêt à répondre à toutes mes difficultés. Il ne se fatigue pas. C'est cet amour que Dieu a pour moi. Et donc, le psalmiste nous rappelle de cet amour ferme. Il y a des gens que nous aimons. Nous aimons notre épouse, notre époux. Nous aimons nos enfants. Nous aimons nos parents. Nous aimons des frères en Christ. Il y a des gens qui sont autour de nous dans nos communautés. Ce n'est pas que nous pensons à eux comme des gens spéciaux, mais nous avons de la compassion, de l'amour pour eux. Et comme David parle ici, il dit que ta miséricorde vienne. Il dit que c'est l'amour de Dieu ferme qui a été promis, et cela doit venir par la grâce de Dieu. Et c'est ce qui a été promis parce que c'est le salut que Dieu lui-même a pourvu par les moyens qu'il a choisi lui-même, et il a demandé que nous croyions en Jésus et nous serons sauvés. Là, le verset 42, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Verset 42, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Il dit que dans notre ère, personne ne peut parler de la foi chrétienne et du système chrétien. C'est merveilleux. Je peux croire en cela aussi, mais si nous voulons exagérer, nous allons dire que ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'opposent à l'évangile de Christ. Il y a des gens certainement qui enseignent, qui rejettent la parole de Dieu, qui veulent humilier ceux qui embrassent et acceptent la doctrine du salut concernant Dieu, alors je vais avoir une réponse. Mais il fait la connexion de ce verset au verset précédent. Il dit, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Il dit, lorsque j'ai toutes les critiques, lorsque j'ai embrassé ton amour, j'ai embrassé cela, alors j'ai une réponse, je peux répondre. Parce que j'ai le salut, j'ai quelque chose à dire. Parce que j'ai l'expérience du salut, je peux dire, je crois en toi. Alors je pourrai répondre à ceux qui m'outragent. Avec une telle assurance, l'homme est en mesure de répondre à ceux qui vous reprochent et vous repoussent. Ben, vous avez la foi en Dieu. Ceux qui croient en lui, il anéantit ceux qui s'opposent aux enfants de Dieu. Hébreux chapitre 11 parle de ce grand témoignage de ceux qui ont été fidèles depuis des siècles. J'ai lu, voyez ce passage d'Hébreux chapitre 11 parle de des hommes et des femmes qui parlent de qui ont demeuré fermes dans la foi. Et dans le chapitre 12, il dit, parce que il y a une si grande nuée de témoins, voyez, puisque il y a ces personnes qui étaient fidèles, ces héros de la foi, ils étaient fidèles et que Dieu a préservé leur vie. Tout, parce qu'il y a ces grands témoignages de l'œuvre de Dieu dans leur vie pour ceux qui ont été en difficulté. Nous pouvons savoir que Dieu aussi sera capable de nous secourir. Le psalmiste dit maintenant que lorsque on vous voit, vous continuez à être fidèles, cela les énerve. Ceux qui vous détestent, ils ne sont pas contents parce que Philippiens dit, ce n'est pas, il dit de ne même pas s'opposer à ceux qui vous s'opposent à vous. Il dit que c'est le signe de leur destruction, car ton salut vient de Dieu. Ça, quel est le signe clair qu'ils seront détruits, que Dieu préserve et soutient son peuple? Nous prenons nous de cela, comme nous voyons le psalmiste qui parle de son témoignage de l'amour de Dieu et qui voit dans son encouragement avec Dieu et dit qu'on va avoir les difficultés avec les impies, nous allons marcher dans la joie, ils vont essayer de détruire la culture autour de nous. Mais vous allez voir dans votre vie, dans les petits, dans les moindres détails, vous allez être attaqué, on va s'opposer à vous, on va vous ridiculiser, on va faire des choses pour vous éloigner de votre amour ou bien de votre fidélité à Dieu. Nous allons comprendre que ce n'est pas en vain que nous croyons en Dieu. Calvin dit que je devrais avoir des réponses à donner à ceux qui se opposent à moi et qui se moquent de moi, mais Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient à lui. Calvin nous rappelle que vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez lutter. Vous allez avoir des difficultés. Vous allez savoir que ceux qui se sont... Vous êtes très étonné de voir que ceux qui se sont retournés contre vous, ils vont être des gens qui vont être éhontés, qui vont se retrouver en situation difficile. La Bible nous rappelle que nous devons toujours défendre, apprécier, approuver tout ce qui est juste. Il faut refuser le péché de l'homosexualité, le péché contre la loi de Dieu, contre l'alliance de Dieu, contre le sabbat. 1 Corinthiens chapitre 6 nous rappelle toutes ces choses qui sont la marque des incroyants, et ils nous donnent le témoignage que ces personnes ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et quand nous voyons tout cela, Calvin écrit que nous reconnaissons la manière dont nous allons être traités, les moqueries que les gens vont nous lancer, mais Dieu ne déçoit pas. Paul écrit en Romains pour nous rappeler cela, que nos peines, nos difficultés nous arrivent pour nous rendre parfaits à l'image de Christ. Jacques chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 nous avons les mêmes déclarations que ce qui est difficile, ce qui est dur, est compliqué, ce qui est une épreuve pour nous, cela arrive pour que cela puisse, Dieu puisse nous rendre parfaits à l'image de Dieu en devant travailler à nous. Et j'ai cru en toi. Le service dit, et je pourrais répondre, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai tes lois à toujours et à perpétuité. Il dit que je ne veux pas rester derrière pour dire que toutes ces personnes, si je pouvais juste les éviter, ils vont partir, les méchants. Non, 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 il ne faut pas les éviter, ils ne vont pas partir. Le service dit, aide-moi Seigneur, pour que ma bouche puisse répondre avec autorité, courage, tout ce qui m'arrive. Verset 43 et 44, notre amour pour Dieu demeure dans son obéissance. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise, qu'on parle ainsi. Parfois vous avez créé beaucoup de monde et vous vivez dedans. Mais dans ce petit monde dans lequel vous êtes, vous devez avoir l'amour de Dieu et la grâce de Dieu qui travaillent, qui œuvrent ensemble, qui sont ensemble. Il y a des gens qui ont de la difficulté à accepter que c'est bon d'aimer la loi. Parce que quand ils voient quelque chose qui leur arrive, le psalmiste dit que donne-moi la liberté pour parler clairement, ouvertement contre le mal. Que ma parole soit un témoignage de ce qui est bien. Matthieu Henry a dit que la parole de la vérité demeure toujours dans ma bouche. Donne-moi la sagesse de pouvoir utiliser ma connaissance pour l'introduction de ce qui est bien. Aide-moi à utiliser le cerveau que j'ai. Et donc, ce qui est bien, utilise mon cerveau, ma pensée, de manière pour que je puisse amener d'autres personnes à faire le bien. Donne-moi la liberté de parole, d'expression, pour que je puisse démontrer la vérité. Que mon cœur converti produise une langue convertie. À cause de mon espérance, j'espère en ta loi et en tes promesses. C'est ce que Matthieu Henry a dit, il ne faut pas ôter la parole de vérité de ma bouche. Donc, une autre manière de dire que je suis à toi, il faut remplir ma bouche des témoignages de ta bouche, de ta parole. C'est une opération humble. Je vais garder tes lois continuellement. David a professé sa confiance en Dieu. Il dit, rends-moi prêt. Cela démontre sa confiance en les Écritures. Dieu, aide-moi à être capable de parler, de déclarer. Ce sont des choses que vous devez noter. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses que le service va discuter par lui-même avec ses propres tentations. Mais rappelez-vous que le service nous appelle pour que nous puissions répondre, afin que nous puissions faire les mêmes prières que David, afin que nous puissions appeler Dieu et qu'il nous rende prêts à pouvoir régler nos soucis, nos difficultés. Rends-moi avoir une opposition claire contre les ennemis. Il dit qu'il va nous dire, il faut avoir la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta vie, dans ta bouche. Sois engagé pour toujours, et obéis à cette parole. Fais cela. 2 Timothée chapitre 3, vous connaissez bien le passage qui parle de ce passage. 2 Timothée 3 verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça. Cela dit beaucoup de choses. Mais quel est le contexte qui implique ce petit verset? C'est que Paul, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 17, il dit la Bible, la parole de Dieu est inspirée, c'est la parole de Dieu, et cette parole de Dieu qui est inspirée, c'est le moyen par lequel Dieu corrige, instruit, enseigne, reprend. Et donc vous avez besoin de cet homme là afin que vous allez voir la parole, vous allez obéir à la parole afin que vous soyez l'homme qui fait l'homme qui fait le travail. Et le psalmiste nous appelle, il nous rappelle que nous devons faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Vous devez aimer la loi comme le psalmiste l'aime. Verset 45 au verset 48. Je marcherai au large car je cherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. David fait la répétition ici. Quand je marche, j'apprécie cela. La parole de Dieu nous demande de nous rappeler que la raison pour laquelle nous avons besoin de répétition, c'est parce que nous avons besoin qu'on nous rappelle encore et encore les choses que nous connaissons dans notre éducation. C'est que la répétition est importante et dans nos combats contre le péché, nous nous confrontons à ce qui... Et donc, nous avons besoin d'avoir cette espérance. Verset 45, il dit, je marcherai au large car je recherche tes préceptes. D'abord, la chose que vous allez écouter, c'est que Jésus dit que les paroles de Jésus a dit qu'il y a le chemin large et le chemin resserré. Et il dit que ceux qui marchent sur le chemin resserré, c'est eux qui vont aller au ciel. Donc, il dit, comment je marcherai, comment j'aime ta loi, je marcherai sur ce chemin confortable parce que j'ai cherché, j'ai retrouvé tes préceptes. J'ai recherché ta loi et j'ai obéi à ta loi. J'ai cherché à faire ce que je dois faire et j'ai consulté ta parole. Tout ce que Dieu, tout, ceux qui aiment Dieu aiment son commandement. Alors, ils aiment son commandement et ils nous appellent à le suivre de cette manière. La voix de Dieu, les voix de l'homme sont-ils ici? Calvin a écrit que les hommes mettent les difficultés devant leur chemin, mais ce passage nous montre que il faut une obéissance implicite à Dieu, et si nous sommes obéissants, nous allons avoir la récompense. Et si nous avons un désir, si nous avons des difficultés dans les épreuves, notre âme est préservée par Dieu qui marche en nous. Verset 46 au verset 48, cela résume et nous donne de comprendre certaines choses. Nous allons voir ces trois versets qui nous traitent, qui parlent de choses différentes. Nous allons lire verset 46 au verset 48. Il dit, dans le verset 46, je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Il fait la déclaration et il dit, il faut être libre, libre de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est mauvais. Il faut être libre. Libre pour marcher avec Dieu, libre de tout péché, en sachant que celui qui se laisse au péché est en esclavage. Jean chapitre 8, Luc chapitre 1, il dit, nous devons être courageux. Je vais parler au roi. Il dit, sois courageux, je parlerai au roi. Il faut parler au roi, ça c'est un privilège. Je peux aller parler au roi. Mais il dit, je vais parler à ceux qui ont peur de cette vérité, de cette parole. Je vais parler à ceux qui ont le pouvoir et qui peuvent avoir la capacité de me décapiter, que ce soit les rois qui ont... Il dit, non, moi je vais parler à ces personnes qui nous effraient, afin qu'ils puissent comprendre la vérité. Je ne vais jamais avoir peur de pouvoir mener ma vie, ma religion comme Daniel chapitre 3, il dit que je vais me plaire dans tes lois. Il faut toujours être audacieux. Je parlerai au roi même s'ils ont le pouvoir de me tuer. Je n'aurai jamais peur de posséder ma propre religion. Vous voyez, il faut être toujours joyeux et agréable dans le travail. Donc, dans notre conscience, parmi les hommes, nous devons continuer à marcher. Il faut vous rappeler de la parole du monde qui n'avait de n'importe quel moyen. Imaginez qu'on n'a pas de règles, le bien et le mal, la justice. Il faut penser à cela. Comment est-ce que je peux savoir ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois savoir ce que je dois faire? Comment est-ce que je, comment si, même si je suis tenté à faire le mal, comment est-ce que je le sais? Le psalmiste nous dit, nous devons être des gens qui possédons notre propre religion. Nous devons être fidèles et faire ce qui est bon. Nous devons être des gens qui aimons la loi. Nous devons faire attention et nous devons également être joyeux et agréables dans le travail. Il dit, oui, j'aime cela, c'est mon amour, j'ai de l'amour pour cela. Je fais mes délices de tes commandements. J'aime cela. Et quand nous cherchons la perfection, nous sommes diligents dans le travail, nous cherchons, nous prions, nous voulons comprendre, nous nous déterminons. Et vous ne comprenez pas certains aspects du quatrième commandement, ce que ça veut dire, que quand il dit par exemple de garder le sabbat, c'est ok, si tu ne comprends pas, c'est vrai, c'est possible que tu sois ignorant et commencer, tu ne vas pas vivre, mais il faut prendre cela sur toi-même, que je veux comprendre cette loi, je veux comprendre le deuxième commandement, je veux comprendre le premier commandement, le deuxième commandement, le troisième commandement, le cinquième commandement, jusqu'au commandement 10, il faut utiliser le catéchisme, je chante cela, c'est vraiment intéressant. Mais quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous devons être prêts à accepter cela quand nous comprenons ce que c'est que la vérité. Il faut que nous prenions plaisir au service de Dieu. Il faut être diligent et vigoureux dans son devoir. Il faut désirer la loi. Il faut appliquer soigneusement la loi à notre vie et être attentif à la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est une image, c'est une description de Dieu lui-même. Et comment est-ce que nous pouvons obéir à cette loi? Certainement sans l'aide de Dieu. Nous avons le grand besoin de Dieu à changer nos vies. Il nous appelle à être éveillés à ce qui est bien et désirer cela, à être audacieux dans notre travail. Le psalmiste nous a dit dans cette section que nous devons être courageux, audacieux, que notre bouche soit remplie de la vérité et que nous puissions déclarer cette vérité envers ceux qui ont besoin de cela. Il faut connaître Dieu à travers sa parole, à travers son amour. Dieu va nous donner la grâce pour que nous puissions connaître sa loi, que nous puissions aimer sa loi. Et que nous ne disons pas que seulement j'aime la statue de Dieu, mais il faut aller comment j'aime Jésus-Christ. Tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Jésus parce que Jésus est la parole. Dieu, le Saint-Esprit, j'aime ce que Dieu pense, j'aime ce que Dieu dit, j'aime sa loi. Que Dieu nous donne la grâce d'être des gens qui aimons sa parole. Prions. Notre Père, nous prions que tu nous donnes la bénédiction en écoutant, quand nous avons écouté ta parole. La parole a été lue, la parole a été prêchée. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce pour que nous puissions croire dans la grâce et profiter de ta parole. Mais nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas y arriver parce que nous avons fait quelque chose, mais nous demandons que ta grâce soit abondante dans nos vies. Aide-nous à lire ta loi, aide-nous à te connaître davantage en étudiant ta parole. Aide-nous à être fidèles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.